moi, je suis un tout petit peu gêné par la focale qui est donnée sur les aspects scientifiques. C'est-à-dire que de mon point de vue, mais j'ai une vision assez différente, la science s'est développée avec cette rationalité calculatrice, c'est vrai, essentiellement parce que ça marchait. Et qu'elle est devenue, de façon concomitante à l'invention de l'idée du progrès, dont le capitalisme s'est emparé, elle est devenue un instrument. Et de mon point de vue, ni plus ni moins. Un instrument très efficace, mais un instrument. À titre d'analogie, j'évoquerai par exemple tout à l'heure, vous parliez de Auschwitz. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la Shoah, elle a commencé par des hommes qui fusillent des hommes, à la main, avec des fusils. Et une des raisons de la construction par les nazis des camps d'extermination, ça a été le constat par le service de santé des armées allemandes de l'augmentation des troubles psychiatriques parmi ceux qui tuaient. Donc là encore, je vois l'industrialisation, par un terme qui utilise les connaissances scientifiques, comme n'étant que un outil. Et ce que moi, je placerais davantage comme étant quelque chose d'essentiel et fondamental dans le développement du capitalisme, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir l'abandon de toute notion de morale, éthique, valeur, ce que vous voulez, enfin valeur, c'est justement le terme qui est utilisé à la place de principe. Principe, morale, éthique, conception religieuse ou impérialiste, où on est les Romains et les autres sont des barbares. Tout ce type de conception disparaît au seul profit d'une valeur. Et donc tout disparaît. Et puisque tout disparaît, tout se vaut. Et si tout se vaut, on peut tout faire. Et donc la machine se lance et elle est presque inarrêtable. Et pour en revenir au titre initial de la réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les murs qui empêchent le développement d'une critique qui porte dans la société, d'une certaine façon, je me suis demandé, avant de venir, ces jours précédents, je me suis demandé s'il n'y avait pas là justement quelque chose qui nous impactait, nous, dans notre critique, à savoir... ces 100 dernières années ou ces 50 dernières années, une pensée qui en est progressivement venue à abandonner des notions qui me semblent comme étant essentielles à la naissance du socialisme, qui a été quand même l'idée la plus forte qui s'est opposée au capitalisme, à savoir l'idée d'universalisme. Et puis sa petite sœur, c'est l'égalité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on dit ces choses-là, on est confronté souvent à des on nous rétorque, on nous répond par des constructions, relativisme, contextualisation, ce qui finalement, vous prenez pas mal, mais pour ceux qui pensent comme ça, pas du tout, je vais vite, encore une fois l'oral rabote, mais ce qui d'une certaine façon c'est être victime de l'hégémonie du capitalisme. C'est-à-dire qu'on pense un peu comme le capitalisme agit, sans principe, pensant que tout est finalement un peu relatif et que je peux acheter n'importe quoi. J'ai un téléphone portable, je m'en fous comment il est fabriqué. Je m'en fous. Je l'achète. Et puis, bien sûr, celui qui le produit, lui, il le produit et il s'en fout encore plus. Et donc là, pour moi, il y a peut-être, mais sans avoir pu jusqu'à maintenant bien le développer, il y a peut-être là une sorte de clé de rétroaction intéressante, c'est-à-dire voir si, au-delà de la concomitance entre la science et le capitalisme, qui est une réalité, voir s'il n'y a pas quelque chose de fondamental aussi dans le capitalisme comme étant un système qui abandonne tout système qui ne soit pas purement métrique, combien je gagne, et par rétroaction, au fil de quelques dizaines d'années plus tard, quand ils ont mis à bas le socialisme, parce qu'ils ont réussi, la pensée moderne aujourd'hui en est venue à être colonisée par ces relativismes et ces contextualisations et ces déconstructions et ces qui nous empêchent finalement de dire des choses simples, comme par exemple on ne vit pas du travail d'autrui, comme par exemple on ne porte pas à l'intégrité physique d'autrui. D'aucune façon, comme par exemple satisfaire son désir par la consommation mène à la démence ou à la perte. Des choses simples comme ça, et en les établissant comme des sortes de vérités universelles, qui ne sont pas platoniciennes. Hein. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur le fait que ce, les vérités, ce ne sont pas des vérités en soi. On est d'accord sur ça. Enfin voilà, c'est confus, mais vous voyez à peu près ce que je pense ce que j'évoque.
Je me souviens d'un mail que tu avais envoyé, excusez cet aparté personnel, mais que tu avais envoyé il y a une vingtaine d'années. Tu disais.
Tu avais déjà des
mails ? Oui, ou c'était il y a 15 ans. Oui. Tu disais, je me demande si le capitalisme ne donne pas plus à rêver que ce que nous nous proposons. C'était dans un cadre militant. Et la formule m'avait bien plu. J'avais dû te le dire à l'époque et tout. Et je trouve que ça fait écho à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que... et ça rejoint ce que disait Jean-Marc. C'est-à-dire que on a affaire à une colonisation de l'imaginaire. Et c'est ça qui est, je crois, qui est l'obstacle principal, qui est... nos imaginaires sont colonisés par le capital. Le capital donne à rêver. Ce sont des rêves d'une trivialité épouvantable. Il donne à rêver le dernier smartphone. Il donne à rêver, si on gagne au loto, d'avoir des vacances aux Seychelles. Il donne à rêver, oui, la trivialité de la consommation. Or, c'est ça qui est le moteur essentiel de l'imaginaire capitaliste. C'est quand même, c'est la consommation. Et elle va de pair avec cette idée de progrès. Ça a remplacé le paradis. Le paradis, c'était censé venir après. On menait une vie épouvantable, mais au moins, on était récompensé dans l'au-delà, on avait le paradis. Dans la consommation, c'est un petit peu ça aussi. Et c'est le progrès. Avec le progrès, il y a toujours de l'après. Il y aura peut-être un autre futur. Et cette histoire, c'est que cette idée de progrès et d'une attente quasiment messianique, elle était partagée à la fois par les classes dominantes qui offraient ça en pâture, sous forme religieuse par exemple, et par ceux qui étaient censés s'y opposer, c'est-à-dire le mouvement ouvrier, qui s'est nourri de l'idée de progrès. D'ailleurs, on dit encore maintenant, il y a les bons progressistes et puis les méchants réactionnaires. Hein. Ceux qui veulent revenir en arrière, c'est les réactionnaires, c'est affreux. Puis il y a les progressistes. Alors les progressistes, c'est bien. Alors, on peut s'engueuler entre progressistes, n'est-ce pas? Mais enfin, progressiste, c'est connoté comme chose de bien. Hein. On est du côté du progrès, donc ça va mieux. Or, quand on regarde un petit peu les textes et les pratiques du mouvement ouvrier, ça laisse à... J'étais encore hier en train de relire un des plus beaux textes du mouvement ouvrier, qui est le concept de communisme libertaire adopté par le congrès de la CNT en Espagne en mai 1936, c'est-à-dire deux mois avant le coup d'État fasciste. C'est un des textes les plus extraordinaires que le mouvement ouvrier ait produit. C'est-à-dire, et c'est un texte programmatique, c'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire. Puis on va le faire pas dans 100 ans, on va le faire demain, parce qu'on est l'organisation la plus puissante en Espagne, c'est 1 million d'adhérents, ils sont armés, enfin voilà, ils sont prêts à instaurer le communisme libertaire en Espagne. Et c'est un texte, bon, écoutez, magnifique. Et dans ce texte, il y a tout un passage sur l'eugénisme, et qui dit, conformément au principe de l'eugénisme, la société communiste libertaire fera ci, fera ça. Nous, révolutionnaires, nous ferons ci, nous ferons ça. Conformément au principe de l'eugénisme. Et il y a une référence permanente à la science. Et y compris au moment de la Révolution espagnole, les anarchistes seront extrêmement fiers d'avoir appliqué les méthodes scientifiques à l'agriculture.
C'est terrible, ça.
Et à l'industrie. Au point d'en arriver à ce point que Juan Pero, qui était à un moment ministre de l'industrie, qui était un grand dirigeant de la CNT, fait l'apologie du fordisme. Ça, c'était avant la Révolution, en disant, c'est extraordinaire, les méthodes fordistes, ça marche. Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne quand même mieux que nos vieux ateliers à Barcelone, notre vieille industrie poussive en Espagne. Les Ricains, quand même, ils ont trouvé un truc. C'est le fordisme, c'est-à-dire le comble de la déshumanisation. L'être humain réduit au même mouvement toute sa vie, il va faire comme ça, il va faire comme ci. Ça, c'est le fordisme. C'est montrer à quel point ceux qui étaient censés s'opposer au capital, au capitalisme, etc., finalement partageaient les mêmes valeurs et le même imaginaire, qui est un imaginaire de progrès, de réussite matérielle, de consommation, etc.
Bernard, je reprends, je suis d'accord sur quasiment tout ce que tu as dit. J'ajouterais juste une chose, c'est que, peut-être parce que j'ai une formation scientifique et pas d'ingénieur, il me semble que beaucoup de ces erreurs qui ont été faites dans les années 30 et qu'on entend aujourd'hui encore régulièrement, proviennent d'une confusion. Une confusion qui, de mon point de vue, c'est-à-dire que si on est tous d'accord, on peut alors éliminer ce qui me chagrine depuis tout à l'heure. Une confusion entre la science et la technique, qui pour moi, sont deux choses fondamentalement et essentiellement différentes. Ah. C'est-à-dire que je refuserais définitivement de vivre dans un monde dans lequel on rejette, je ne sais pas moi, les recherches théoriques concernant la relativité, ou comme les soviétiques, on peut le faire concernant la génétique. Ça, c'est un monde qui m'intéresse pas. Par contre, je souhaiterais vivre aussi dans un monde dans lequel les technostructures nucléaires n'aient pas l'influence qu'elles ont. Mais de mon point de vue, c'est deux choses différentes, qui socialement se matérialisent par des rôles sociaux différents, qui sont justement ceux de l'ingénieur et du scientifique. Après, la réalité, c'est que quand j'étais à la fac en sciences, la fac était colonisée par les industries d'armement et les industries, voilà. Et puis aujourd'hui, les scientifiques, quand les formations scientifiques en France sont bonnes, mais beaucoup de scientifiques, quand ils quittent les meilleures formations, ils vont faire quoi? Ils vont faire de la finance, de l'ingénierie financière. Donc évidemment, tout ça est très entremêlé. Néanmoins, dans l'absolu, je pense qu'il est important de faire cette distinction. Et cette distinction est faite, alors on peut dire que la science, mon père, par exemple, qui était d'un milieu ouvrier, très cultivé, mais ouvrier, faisait partie de ces gens qui professaient quelque chose dont j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que j'entends peu parler, qui était l'émancipation par la science, l'émancipation par la culture, l'émancipation par l'apprentissage de techniques. Alors c'était la science, comprendre comment fonctionne le monde matériel, ça pouvait être la culture, c'est-à-dire lire du Victor Hugo, lire tomber amoureux de Marguerite Gauthier, parce que, oui, bien sûr, Dumas fils, c'était un bourgeois effrayant. N'empêche que lire La Dame aux Camélias était une forme d'émancipation dans le milieu ouvrier où il était. Et je pense que ça, c'est encore vrai. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose à préserver, et quelque chose qui a été essentiel, parce que à la fin, c'est quand même la chose qui a été la plus forte face au capitalisme. Ça a été ça. Le mouvement socialiste qui s'est basé sur ces choses-là. Là, après la technique et la façon dont le capitalisme s'est emparé, parce que bien sûr, ça marche, de la technologie. Et par exemple, le projet de Manhattan,
ce ne sont pas des ingénieurs qui l'ont lancé, ce sont des scientifiques.
C'est vrai. Après, on peut se demander, mais là, on en viendrait à la psychanalyse, on peut se demander si, par exemple, quelqu'un comme Oppenheimer n'était pas finalement un peu frustré de ne pas avoir été...
Par contre, ce qu'on peut dire... ce qu'on peut dire de ces personnes-là, c'est qu'ils... Il avait un petit peu un accès à l'obsessionnalité pour pouvoir justement poursuivre ce but pendant quelques années, et un but qui était au fond complètement morbide et mortifère. Là, il y a quelque chose, un petit problème là.